La scène se passe dans une pharmacie à Rome. Le téléphone sonne et au bout du fil, on entend « Morricone ». Lequel ose la pharmacienne qui a un client du même nom ? Réponse : le maestro, bon Dieu, celui dont le nom a été donné à un astéroïde. Ennio Morricone, génie pas commode. Il est décédé à l'âge de 91 ans l'été dernier et son œuvre est un continent. On ne va pouvoir en explorer que quelques contrées dans le Pop and Morricone de ce matin. Les partitions qu'il a écrites pour Sergio Leone, évidemment, celles pour Henri Verneuil ou encore pour Quentin Tarantino dans les années 2010. Morricone, génie italien qui a révolutionné la musique de film et qui dans le même temps a changé le cours de la musique pop dans le monde entier. Ce Pop & Co est un épisode inédit, tandis que la semaine dernière c'était une rediffusion en raison d'un virus que tout le monde connaît. Cette semaine encore, je n'ai pas été en mesure de réaliser un reportage pour entrer dans les coulisses de la chanson d'un artiste. Je vous propose donc d'explorer à nouveau les pistes d'un morceau conçu, lui aussi, comme une bande originale de film. C'est Goliath de Woodkid. Tentons donc de ne rien lâcher. Bonjour, bienvenue, c'est Pop & Co.
France Inter, Rebecca Manzoni. Pop & Co.
Il a ses grosses lunettes carrées et il ne sourit pas. Il est calmement assis face à la caméra du cinéaste Giuseppe Tornatore qui consacre un documentaire à son œuvre. Et Ennio Morricone se met à chanter. Dans cette musique, il y a et le drame et la comédie. Sergio a adoré. Après, il y a trois instruments différents associés aux trois personnages. Il buono, il brutto, il cattivo. Le bon, la brute et le truand, film de Sergio Leone, sorti en 1966. Morricone a composé plus de 500 bandes originales de films. Levé à 5 heures tous les matins, au boulot à 6. Une vie monacale, une vie entière dédiée à ses partitions. C'est l'histoire d'un jeune Romain qui a appris la musique dite sérieuse au conservatoire de Santa Cecilia et il se rêvait grand. Grand compositeur de musique d'avant-garde. Mais en attendant, il faut bien vivre. Et Morricone participe à la bande-son de la modernité italienne d'après-guerre. C'est la télé qui a besoin d'orchestrateurs pour ses nouveaux programmes. C'est Cinecittà qui a besoin de compositeurs. C'est l'industrie du disque qui a besoin d'arrangeurs. Aureliano Tonet vient d'entrer dans son bureau et dans Pop & Co. Il est journaliste au Monde, fin connaisseur de l'Italie et de Morricone.
Il arrive au bon moment. C'est le moment où l'Italie se modernise, elle s'industrialise, elle s'équipe effectivement en téléviseur, en radio. Et Morricone, finalement, se trouve effectivement aux avant-postes derrière son pupitre avec sa baguette. Il va faire l'aller-retour finalement dans cette période de formation entre ses études très sérieuses, très académiques. Il va s'immerger vraiment dans l'avant-garde de cette musique contemporaine d'après la Deuxième Guerre mondiale, qui est très sérieuse, presque dissonante, brutiste. Et en même temps, donc, il va se faire la main sur la musique légère, comme l'appellent les Italiens, cette pop qui se met en place juste après la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'il va aussi se frotter à des instruments qu'il n'avait pas forcément l'habitude de côtoyer au conservatoire. On lui demande d'orchestrer, de mettre des violons, de mettre des chœurs, mais aussi d'intégrer une batterie, une basse, une guitare électrique. Et c'est pas forcément des instruments qu'on recommande aux diplômés du conservatoire. Donc il va appréhender ce nouvel instrumentarium venu plutôt des États-Unis, venu de la pop. Hein. Ça va lui permettre finalement d'opérer une synthèse pour les premières bandes originales, notamment celle de Sergio Leone, mais d'autres évidemment. Et donc ce moment de formation entre la pop et le conservatoire, entre la RAI et le conservatoire, et bien c'est fondamental pour que Morricone trouve son style.
Ennio Morricone se fait la main en composant et en arrangeant la variété italienne et parfois française d'après-guerre. Il écrit pour la chanteuse Mina, pour Charles Aznavour et là Gino Paoli.
Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso. ce la qui.
Il y a aussi une manière d'agencer les sons. Il y a quelques jours est mort Phil Spector, très grande figure d'arrangeur et de producteur américain, qui avait mis en place ce qu'on appelait le mur du son, c'est-à-dire un son extrêmement dense, extrêmement saturé, qui ne respire pas. Morricone, c'est presque l'école diamétralement opposée, c'est l'inverse. L'orchestration morriconienne, c'est une orchestration qui respire, qui laisse le silence durer et qui isole chaque son de manière très distincte. C'est une manière d'écrire la musique presque en lien avec le cosmos, avec l'environnement. Ça respire énormément, c'est une musique pleine de souffle.
Sergio Leone a surtout entendu le travail de Morricone pour la RAI et pour des westerns. Dans leur enfance, ils étaient à l'école primaire tous les deux. 30 ans plus tard, ils se retrouvent simplement. Leone est allé frapper chez Morricone.
Bon, tout roule.
Tout roule. Stéphane Le Rouge a conçu un coffret Morricone qui couvre la période 1964-2015, ce qui nous fait 18 CD. Les 5 premiers sont dédiés aux musiques pour les westerns de Sergio Leone. En 1964, pour sa première collaboration avec Leone sur le film « Pour une poignée de dollars », il va reprendre le thème d'une berceuse qu'il avait écrite pour un programme de la RAI.
C'est aussi l'idée de montrer que ces films-là ne sont pas des faux westerns américains, mais que c'est un regard européen et italien sur un genre, même si les acteurs, notamment la vedette Eastwood, est américain, mais c'est un regard vraiment profondément décalé, oblique, transalpin, sur un genre américain.
Ces musiques de Morricone, ce fut aussi la bande-son de nos dimanches soirs. On regardait les films en VF et resterait pour toujours dans l'oreille le timbre de Jacques Deschamps, qui assurait le doublage de Clint Eastwood.
Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Oh.
Le bon, la brute et le truand comptent l'un des thèmes auxquels Morricone tenait le plus. On l'entend à la fin du film, l'extase de l'or, c'est le titre. Et Morricone le jouait toujours en conclusion, comme un final, de la séquence Sergio Leone pendant ses concerts.
C'est un thème important parce que il y a une dimension un peu justement d'ironie dans les premiers Leone. Et ce thème, c'est un peu le thème par lequel le lyrisme va entrer dans le cinéma de Leone. Et le film suivant, d'ailleurs, Une fois dans l'Ouest, va confirmer cette direction. C'est aussi la première fois où Edda De Lorso, donc la fameuse soprano, va devenir soliste dans un film de Sergio Leone. Et c'est un moment clé où les personnages se retrouvent dans ce cimetière. Le magot, le trésor, se retrouve est caché quelque part dans une tombe, il faut trouver laquelle. Et Lee Wallach se met à courir comme ça de façon circulaire dans ce cimetière. Et il y a ce thème qui est construit sur un grand crescendo. C'est juste un thème de 8 mesures, mais répété, et qui vont gonfler comme ça jusqu'à l'obsession et jusqu'à la folie. Et je sais pas, il y a une magie dans ce thème. Quand on voit la séquence, elle est absolument, mais je sais pas, elle vous hypnotise, elle vous emporte vers une sorte d'ailleurs. Et j'ai un souvenir, pas mélancolique, mais presque, quand avec Frédéric Bonneau, directeur de la Cinémathèque française, on avait conclu la rencontre qu'on avait organisée avec Morricone en fin 2018. La rencontre était conclue sur cet extrait-là. Et c'était étrange de voir Morricone, tout petit, sous le grand écran de la Cinémathèque, qui jetait des petits coups d'œil sur l'écran, cette musique qui résonnait dans la salle. Et la salle entière de la Cinémathèque lui a fait une ovation finale quand le thème final de l'Extase de l'or s'est terminé. Il était ému, il y avait quelque chose qui le dépassait dans cette musique. Par exemple, il a toujours été le premier surpris que le groupe Metallica entre en scène sur cette musique-là pendant des années. Quoi. C'est-à-dire que ce thème lui est échappé à ce point-là et soit devenu un emblème de sa collaboration avec Léon. L'Extase de l'or, pour moi, c'est ça. C'est le lyrisme qui entre, qui s'infiltre dans le cinéma de Sergio Leone.
Blondin, les voilà les dollars. Les voilà les dollars.
Tu veux rigoler, hein, Blondin? Tu veux me faire une farce, ça vous le, hein?
France Inter.
Ça, c'est pas une farce, c'est une corde.
Rebecca Manzoni.
Dépêche-toi de passer ta tête là-dedans, Touko.
Pop & Co.
Et ce matin, Pop & Co est Pop & Morricone. Ça, c'est pas du Morricone. C'est le générique d'une émission de France Inter, diffusée le 20 septembre 1969.
Ici le Théâtre 104, maison de l'ORTF à Paris, où François-Régis Bastide et Michel Pollack présentent leur magazine public « Le masque et la plume », réalisé avec le concours de Annie Cœur de Vais, improvisation musicale par le groupe d'études et de réalisation musicale.
Ce soir-là, le cinéma est au programme et Michel Pollack orchestre les critiques pour parler d'Il était une fois dans l'Ouest.
Jean-Louis Bory.
Moi, j'ai beaucoup aimé ce film parce qu'en effet, ça ressemble qu'extérieurement à un western. Et que Léon a fait du western spaghetti et ça, c'est du western opéra. Nous sommes à la Scala de Milan, et la Scala de Milan avec pour décor l'Arizona. C'est tellement bien réussi que les rochers qui doivent être vrais, on a l'impression qu'ils sont en carton. On a constamment l'impression d'avoir des coulisses, des portants, et le cœur des tueurs, tuons-le, ça dure 10 minutes, 5 minutes, est-ce que tu vas tirer? Ah, tu es lâche, on riboule des yeux, on se drape. Moi j'adore ça, enfin, faut aimer l'opéra italien.
Vraie réflexion qu'a eu Morricone avec le décalage du temps, quand on lui disait toujours « mais finalement ce que vous avez écrit pour Sergio Leone, c'est ce qu'il y a de plus beau, de plus fort », il disait « oui et non ». Ce qui a le plus marqué, ce n'est pas forcément la musique en tant que telle, c'est la façon dont Sergio a su les accueillir, c'est la place qu'il a donnée organiquement à ma musique dans ses films. Et c'est ça qui rend ses musiques absolument fracassantes, et c'est ça qui fait qu'elles aient vraiment marqué le cortex de tant de spectateurs au fer rouge. Mais il disait, mais dans l'absolu, je pense avoir fait mieux ailleurs. ce qui était de la part de Morricone peut-être un peu cruel par rapport à son camarade Sergio Leone, puisque si Leone n'avait pas été là, la planète entière n'aurait peut-être pas découvert, en tout cas aussi vite, la puissance de feu de son écriture.
Si les bandes originales de Morricone créent une telle rupture dans l'histoire de la musique de film, c'est aussi parce que la musique met en scène le film.
La musique met en scène le film, puisque Leone a la chance de bénéficier de la musique avant même le premier tour de manivelle, ce qui est une méthode absolument miraculeuse qui existe uniquement dans la comédie musicale notamment. C'est aussi ce que Francis Lai va faire avec Lelouch, et ça permet au metteur en scène vraiment de penser à sa mise en scène, de penser au découpage, de penser au mouvement de caméra, de penser au déplacement des acteurs dans le cadre, sur un rythme et sur un tempo qui est défini par le compositeur. Il était une fois dans l'Ouest, Claudia Cardinal, que j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois, et qui m'a toujours dit à quel point, finalement, le directeur d'acteur sur Il était une fois dans l'Ouest, elle m'a dit que c'était moins Sergio Leone que Ennio Morricone, qui était un directeur d'acteur invisible, mais il y avait ces grandes enceintes à Almeria, en Espagne, en Andalousie, où le film était tourné, qui lançaient la musique de Morricone, donc le grand thème lyrique d'Il était une fois dans l'Ouest, avec la voix magique, le timbre magique de Edda del Orso, la soprano de fétiche de Morricone, et que voilà, elle n'avait presque rien à faire, sinon à se déplacer sur la musique de Morricone. Et bien sûr, organiquement, ça donne l'impression qu'il y a quasiment un deuxième metteur en scène sur le film.
Allô, allô ?
Allô, Lionel ?
Oui.
Voici Lionel Limignana, du groupe The Limignanas, dont la musique a été influencée par les BO de Morricone.
Mon premier souvenir, c'est chez mes parents, mais j'étais vraiment gamin, je devais avoir... 8 ou 9 ans, ouais, un truc comme ça. Il y avait l'album de la BO de Il était une fois dans l'Ouest, qui était là, quoi, qui était dans le salon. Et en fait, le premier contact que j'ai eu avec Morricone, c'était pas musical, c'était vraiment un gros blocage sur la pochette de ce disque-là, d'abord. C'est la fameuse photo de Charles Bronson, enfant, sous une espèce d'arche en pierre. Et au-dessus de lui, il y a son frère qui vient d'être pendu, il a son harmonica dans la bouche. Et autour de lui, il y a ces cow-boys au long manteau comme ça, et qui n'étaient pas les cow-boys que j'avais l'habitude de voir dans les westerns habituels du cinéma du dimanche soir, quoi. C'était pas du tout les cow-boys de John Wayne, c'était autre chose, quoi. Ça m'avait vraiment intrigué, quoi. Et après, j'ai posé le disque sur la platine, et là, ça a été une espèce de...
Lionel ? Ça, on a été déconnecté. Reprenons. Lionel Limignana avait l'album de Il était une fois dans l'Ouest à la maison. Il sort le vinyle, le met sur la platine du salon familial, quand soudain...
Il y a eu la découverte du thème de l'homme à l'harmonica, et particulièrement du son de guitare électrique, ce fameux son de guitare fuzz mélangé avec de l'écho, que nous on a recherché après toute notre vie sur tous les disques qu'on a essayé de faire avec les Limignanas. On essaye de souvent régulièrement de retrouver ce son de guitare là, quoi, qui est vraiment incroyable.
Thank you.
truc qui faisait hérisser les poils en fait, hein, et qui continue aujourd'hui, quoi. Je sais pas ce qui. C'était vraiment un truc complètement héroïque comme ça. C'était la première fois que j'entendais une guitare électrique qui sonnait comme ça. Mais après, j'ai retrouvé des choses qui ressemblent à ça dans les Stones, par exemple, sur le son de guitare de Satisfaction. Puis après, quand j'ai découvert le garage punk et toute la musique que j'ai écoutée ensuite. Mais la première fois que j'entendais ce style de guitare électrique-là, c'était avec Morricone. Mais c'était au-delà de la guitare électrique. Il y avait vraiment quelque chose de bouleversant avec cet album. C'est toujours lié à l'enfance, parce que moi, je me rappelle très bien que dans les cours de récréation, quand j'étais gamin... Quand il y avait des simulations de duels comme ça, et il y avait des mômes qui chantaient le thème principal d'Il était une fois dans l'Ouest, quoi. C'était un cinéma et une musique qui était très populaire, même si on avait la plupart du temps pas vu les films, parce que je sais que j'ai eu le droit de voir Il était une fois dans l'Ouest beaucoup plus tard que ça, quoi. Parce que les films étaient trop violents. Et à chaque fois que je l'écoute, ça me retourne, quoi.
La musique de Morricone infuse dans la pop française et internationale aujourd'hui encore. Ce morceau, avec guitare morriconienne, figure sur l'un des albums des Liminianas, Malamore, c'est le titre, et voici un extrait. Et dire que tout a commencé avec ça. Comment est né ce son-là ? Un jour qu'il était invité à Rome par Ennio Morricone, le cinéaste Henri Verneuil raconte.
Au moment de la pause, Ennio me dit, vous voyez cet homme-là, il dit en montrant Sergio, è torturato, il me dit, c'est un torsionnaire, car quand on a enregistré la musique de Il était une fois dans l'Ouest, à 3 heures du matin, on était encore là avec les 120 musiciens, le solo d'harmonica ne lui plaisait pas. Et il ne disait pas ce qui lui plaisait. On ne savait pas ce qui lui plaisait. Et à 3 heures du matin, le pauvre harmoniste, il avait l'harmonica comme ça, il allait jouer le thème. Sergio Leone a bondi sur lui, il l'a pris à la gorge en lui disant « Tu vas me le donner ce son ?» Et c'est étranglé que l'autre a pu faire « Vous savez, ce ton d'harmonica qui graillonne, c'est parce que Sergio lui serre le cou. » Et là, il a dit « Voilà, c'est ça que je veux. »
La dernière collaboration entre Leone et Morricone sera pour « Il était une fois en Amérique ». Le film sort sur les écrans en 1984 et on regarde une scène avec les oreilles et la voix de Stéphane Le Rouge.
Là, un des petits garçons de ce gang de jeunes du Bronx joue de la flûte de Pan. Il s'appelle Cock Eye, œil de bite littéralement. Et il joue de la flûte de Pan. Et il y a une séquence là aussi qui commence de façon légère et qui va virer au tragique. C'est lors d'une attaque d'un garçon d'un gang rival et qui va aboutir à la mort. Et voilà, avec un effet de ralenti magnifique dans cette petite rue du Bronx, et Et là, la musique de Morricone, elle est sublime parce que Sergio Leone sait mieux que quiconque utiliser la musique de Morricone, c'est-à-dire en coupant complètement tous les autres éléments de la bande sonore. Il n'y a plus de dialogue, il n'y a pas de bruitage, il n'y a pas d'effet sonore. C'est la musique de Morricone qui a le monopole complet de la bande sonore du film dans cette séquence qui est une charnière, puisque ces enfants à qui on va une fois pour toutes, on va leur voler leur enfance. Et ils vont comme ça presque grandir trop vite et passer immédiatement à l'âge adulte. C'est une séquence bouleversante. Et derrière la flûte de Pan, il y a un grand soliste, roumain en l'occurrence, qui est Georges Zamfir, déjà soliste notamment dans la musique du Gros Blond avec une chaussure noire de Vladimir Kosma, dans un autre registre, on pourrait dire. Et je trouve qu'il y a une rencontre magique entre Zamfir et Morricone sur ce film-là de Leone. Et quelque part, c'est un sommet et c'est en même temps un adieu.
Même si Leone veut éviter que Morricone écrive pour d'autres grands réalisateurs, Morricone met en musique beaucoup du cinéma italien des années 60 et 70. Pasolini, Bellocchio, Bertolucci, Argento. Et il y a aussi un cinéaste français, c'est Henri Verneuil.
Moi, je vais bientôt me retirer en Sicile. Alors je voudrais pas laisser un trop mauvais souvenir.
1969, le clan des Siciliens.
C'est passeport. Ça vous dit rien ?
Lino Ventura, Jean Gabin.
Bosquet, PAR, Levallois. Mais dites donc, c'est un véritable plan de Paris, ça. Non, j'avoue que ça ne me dit rien du tout.
Et c'est curieux parce qu'il met en musique des films français, des films anglo-saxons, mais il ne va pas comprendre le dialogue de ces films. Ce que disent les comédiens littéralement, il ne comprend pas. Alors, parfois on lui fait sous-titrer ou il a un exemplaire du scénario traduit en italien. Mais finalement, ça le conforte dans son idée que la musique doit apporter quelque chose qui n'est pas dans l'image, doit apporter une dimension supplémentaire, un état supplémentaire, doit être en contrepoint. Que la musique ne doit pas pléonasmer bêtement ce que le metteur en scène a déjà filmé. Donc finalement, je crois que ça l'arrange énormément de ne pas parler d'autres langues étrangères. Ça lui donne encore plus la possibilité d'être Morricone, en quelque sorte. Morricone trouvait que c'était sa partition presque la plus aboutie pour Verneuil parce qu'il y a ces guimbardes qu'il adorait, qui s'appellent les Moranzani, qui sont des guimbardes siciliennes et qui apportent un peu de Sicile dans cette Sicile, un peu de carte postale, parce que qui peut croire que Jean Gabin est un patriarche sicilien ? Ça paraît quand même assez curieux comme choix de casting. Et quand en face de lui, il est traqué par un commissaire, un policier qui est joué par Lino Ventura, qui lui vraiment est d'origine italienne, mais qui dans le film est un policier, est un commissaire breton, il s'appelle Le Goff. Donc c'est une inversion, c'était presque un défi complètement à la logique. Et je pense que Verneuil et Morricone ont dû quand même peut-être à la table de montage s'en apercevoir. En tout cas, Morricone, c'est sûr, parce que pour amener un peu de sicilianité, pardon pour le néologisme, à Jean Gabin, il lui a collé ses fameuses guimbardes comme un rappel de ses racines. Voilà. Et donc, ça apporte un peu de véracité au caractère sicilien de Jean Gabin. Il y a un peu de Bach, Morricone adorait Bach, et il y a ce prélude pour orgue de Bach qui va injecter dans le thème du film. Et comme Morricone est un expérimentateur, comme il vient de l'avant-garde, il peut pas s'empêcher de trouver dans le son, dans les sons des films, des points d'appui pour son inspiration. Et là, c'est ces sirènes de police françaises, parisiennes, pam, 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 qui vont le fasciner. parce qu'évidemment il est romain, Morricone, donc il n'a jamais entendu le son des sirènes françaises, des sirènes de police, et donc il va en faire, il va se servir de ça comme point de départ pour le thème d'Alain Delon, qui est d'ailleurs une sorte un peu de presque de jerk dodécaphonique, pam 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 pim pam 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 pam, et ça va tellement plaire à Morricone que quand il va retrouver Paris et le polar des années après, presque 20 ans plus tard, avec Roman Polanski sur Frantic, il va utiliser également ce même principe d'utiliser les sirènes de police. Ouais, donc Verneuil et Polanski reliés par un même compositeur et par un même principe de sirène de police transposé dans la partition.
T'as la langue bien pendue, hein?
Tiens, voilà Philippe Noiret.
Un de ces jours, je te la coupe, moi. Comme ça.
Nous sommes en 1988. Cinéma Paradiso de Giuseppe Tornatore et sort en salle. Ennio Morricone accepte d'en écrire la musique.
Et je pense que ce qui va aussi déclencher, ça, être un élément qui va faire qu'il va dire oui à ce jeune cinéaste qui vient de voir en 88, Giuseppe Tornatore, c'est aussi le fait que Tornatore va lui dire « voilà, je veux travailler avec vous et j'ai envie que vous m'écriviez, que vous enregistriez la musique en amont du tournage pour que je puisse tourner sans votre musique ». Et finalement, qu'au moment où Sergio Leone va mourir, va disparaître, là, la collaboration avec Tornatore se noue en 88, et Leone va mourir en 89. Et savoir que quelqu'un lui propose de reconduire cette méthode fondatrice, avec quelqu'un qui a juste 30 ans à l'époque, donc c'est un jeune metteur en scène, et Morricone hésite, il se dit oui, pourquoi pas, et puis il voit que dans le scénario, il y a cette séquence qui va le bouleverser, où le personnage du petit garçon sicilien devenu adulte, joué par Jacques Perrin, revient de l'enterrement du projectionniste de son enfance, qui lui laisse un cadeau, et ce cadeau, c'est toutes les séquences de baisers que la censure locale sicilienne a coupées dans les films. Hop, on lui lance la projection de cette bobine, et là, il voit tous ses baisers enchaînés pour lui tout seul dans la salle. Morricone sait que cette séquence lui appartient. Il n'y a rien, il n'y a pas, là encore, comme parfois chez Leone, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'effet, il y a juste Jacques Perrin, qui regarde cet écran et les images où on voit Douglas Fairbanks, Toto, Charlie Chaplin qui embrasse des comédiennes. Et là aussi, Jacques Perrin va souvent raconter que Tornatore lui a dit « Écoute Jacques, tu vas découvrir ces baisers, tu vas entendre la musique d'Ennio, fais passer sur ton visage toutes les nuances possibles de l'émotion retenue jusqu'à l'émotion complètement relâchée, vraiment, joue avec tes larmes. » Et puis lui dit « On fera autant de prises que tu voudras. » Jacques Perrin a entendu la musique de Morricone, il a vu les séquences de baisers, il s'est lâché complètement et il n'y a pas eu de deuxième prise. Voilà. Et Morricone, évidemment, voilà, va abandonner un film américain qui s'appelle Old Gringo, avec Gregory Peck, pour faire la musique de cinéma Paradiso, et ça va être le point de départ d'une collaboration inconditionnelle avec ce jeune Sicilien de 30 ans, Tornatore, et un mois et demi avant la projection mondiale de Cinéma Paradiso à Cannes, ben Sergio Leone meurt. Voilà. J'ai posé la question à Morricone, je lui ai dit « Mais Ennio, est-ce que vous y voyez une sorte de passage de relais ?» Et il m'a répondu « Je ne l'ai pas vu à l'époque, mais aujourd'hui, avec 30 ans de recul, c'est évident. » Il y a mon frère de cinéma qui est disparu et j'ai un fils de cinéma au même moment qui est entré dans ma vie.
Au Festival de Cannes, plusieurs films dont Morricone signe la bande originale reçoivent la Palme d'Or. Il y a « La classe ouvrière va au paradis » d'Elio Petri en 1972. Il y a « Mission » de Roland Joffé en 86. Ce prix-là va permettre à Morricone de travailler avec une nouvelle génération de cinéastes, dont Tornatore, mais aussi Polanski, De Palma ou Tarantino. Des réalisateurs qui ont été façonnés par les films qu'il a mis en musique. Et au milieu de tous ces noms de cinéastes prestigieux, Morricone va aussi consacrer du temps à des films de série B. En 71, par exemple, il écrit cette BO-là, celle de Maddalena, film de Jerzy Kawalerowicz. Je vous lis le résumé. Une femme doute de trouver le véritable amour dans une relation stable et sécurisée. Un prêtre pense qu'elle ne sera pas capable de faire face au célibat. lorsque la femme décide que le prêtre est l'homme de sa vie, la tension érotique et le questionnement sur la foi s'installent entre eux. Vous avez reconnu ce thème, Morricone va le réutiliser dans Le Professionnel de Georges Lautner avec Belmondo. Après, ça deviendra la musique d'une pub de croquettes pour chiens avec un berger allemand qui court au ralenti à travers champs. Finalement, il ne faisait pas de hiérarchie esthétique. C'est la première phrase de la prochaine intervention d'Aureliano Tonnet, journaliste au Monde.
Finalement, il ne faisait pas de hiérarchie esthétique dans sa manière de composer, c'est-à-dire qu'il peut être plus inspiré par un film de deuxième ou troisième zone que par le film d'un authentique génie. Peut-être, c'est une hypothèse parce qu'il n'a jamais formalisé les choses comme cela, mais peut-être que ces films de cinéma bis lui offraient une plus grande liberté. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas la figure d'un auteur important. Hein, les cinéastes de ces films de série B sont des tâcherons, ils n'en imposent pas. Et donc Morricone n'a pas à lutter contre eux. Il est libre. Il est libre, il a le contrôle. Là où, quand il va finalement collaborer avec un grand nom du cinéma international ou italien, ce ne sera pas forcément aussi facile.
Et même parfois, Morricone ne va pas y mettre du sien. Dans un article qu'Aureliano Tonnet a écrit pour Le Monde en juillet dernier, il rapporte ses propos que Morricone a tenus à la presse allemande. Tarantino est un crétin. Il n'a rien des grands d'Hollywood comme John Huston, Alfred Hitchcock ou Billy Wilder. Tarantino ne fait que du réchauffé. Après la publication, Morricone a nié et a même menacé le magazine de poursuites judiciaires. L'Oscar qu'il reçoit en 2015 pour une composition originale, c'est avec le film de Tarantino, Les 8 salopards. Et revoici Stéphane Lerouge.
Morricone va hésiter. Il va se dire, finalement, je suis certain qu'il a tellement pris le pli de manipuler lui-même des musiques de son choix, que c'est que, même s'il m'admire, ça va pas marcher. Et finalement, quand ils vont se rencontrer, Morricone va se rendre compte que finalement, Tarantino va quand même, je dirais, lui foutre la paix, en quelque sorte. Et moi, très joliment, Morricone m'a dit, ce qu'il attendait de moi, c'était d'abord une musique de Morricone. Il a voulu que je sois libre. Voilà, ce qu'il voulait simplement, c'est ma signature. Moi, je trouve ça magnifique, parce que c'est à la fois une victoire, c'est-à-dire que Morricone restera le compositeur qui a converti Tarantino aux vertus de la musique originale sur un film. Donc, c'est à la fois une victoire, et c'est en même temps une source de frustration, parce que la collaboration, elle est arrivée très tard. Ben, j'aurais jamais pensé qu'il y aurait à ce point-là cette dimension testamentaire dans Les 8 salopards. Je voyais Morricone comme quelqu'un, moi, de à la fois d'inépuisable et d'éternel. Je voyais vraiment une part d'éternité. Il avait surmonté tellement de problèmes liés à l'âge et à la maladie. On est là aujourd'hui, on est en début 2021, et j'ai toujours encore du mal à utiliser l'imparfait pour parler de lui.
Ricordare, en italien, ça veut dire se souvenir. C'est le titre d'une chanson que Morricone a écrite en 1994 pour une pure formalité, un film de Tornatore. Et l'interprète, c'est Gérard Depardieu.
Ricordare, ricordare come un po' morire. Tu adesso lo sai. Perché tutto ritorna anche se non vuoi. E scordare più difficile. Ora sai che è più difficile se vuoi ricominciare. Ricordare come un tuffo in fondo al mare. ricordare, ricordare, ricordare quel che c'è da cancellare e scordare e che per di cose care e scordare finiranno gioie rare.
Le Continent Morricone, c'est un coffret de 18 disques paru chez Universal et conçu par Stéphane Le Rouge. La collection Écoutez le cinéma, dirigée par Stéphane Le Rouge aussi, vient de fêter ses 20 ans avec un livre CD qui réunit la musique et les entretiens d'Alain Goraguer, Michel Legrand ou encore Howard Shore. Et le dernier album d'Eli Mignanas s'intitule Shadow People. J'ai tout dit, mais pas lui. Lui, c'est Woodkid, avec qui on va explorer l'une des chansons de son dernier album dans la suite de Pop & Co. Et d'abord, il fait DJ. Pour le prochain disque, c'est Woodkid qui est choisi.
Alors, j'adorerais écouter Yael avec sa chanson « Je veux un chien ». C'est des gens que j'adore. J'adore ce titre-là. Je trouve que c'est un titre qui est très ambigu, très sexy. Plutôt femme rose ou...
Non, pas femme rose.
Ou l'homme marron.
Non, je vais prendre équilibre basique.
Équilibre basique, c'est le nom d'un thé en fait. Nous sommes dans la cuisine de l'atelier de Johan Lemoine, dit Woodkid. Il est vidéaste pour Lana Del Rey, Drake ou Moby et auteur d'un premier album qui s'intitule The Golden Age. Ce premier disque a paru il y a 7 ans. Et fin 2020 est sorti S16 ou S16 avec ce morceau-là en étendard.
Pattern of mouth strobes, you're going haywire.
fermer la porte ?
Ouais, bien sûr.
Paris, studio de Woodkid, comment est né ce morceau, Goliath ?
On est en 2016, on est dans le climat post-attentat à Paris.
De novembre 2015.
Voilà, de novembre 2015. Moi, je rentre à ce moment-là des États-Unis parce que j'étais en tournage à ce moment-là, au moment des attentats. Et je suis dans un état d'un peu de sidération, comme nous tous en fait. Et en même temps, un état d'amour fou pour Paris, où j'ai envie de redéclarer ma flamme à la France et à Paris en particulier. Donc un état très étrange, une espèce d'impression qu'il y a quelque chose qui bascule et qu'il y a comme une machine qui se met en place. Ça, c'est vraiment le tout début. Le morceau est parti de ça. C'est du contrebasson. Ça fait très musique électronique, mais en réalité, j'aime toujours jouer entre l'illusion de l'électronique et de l'organique. C'est-à-dire que tous ces sons qu'on entend sont des vrais sons, en fait. Ils ne sont pas des sons de clavier ou des sons synthétiseurs. Je suis allé chercher dans les registres les plus graves des bois de l'orchestre. On va à Londres, on enregistre une matière un peu noble, faite avec des gens compétents. Et puis on arrive ici avec toute notre incompétence, et puis on détruit tout. Et on fragmente, et on assemble, et on recrée, quoi, à partir de la matière. C'est comme si j'étais un fabricant de vêtements, mais que j'allais chercher des tissus un peu partout, et puis que je les ramenais. Là, c'est l'endroit où, voilà, où j'assemble les tissus. Je ne fais pas les tissus, mais je les assemble. Donc le contrebasson, et on le mélange avec un son de gong. Et là rentre le contrebasson. Et c'est vraiment la discussion entre cet élément monstrueux et cet élément rotatif. Donc ça, c'est un élément qui va rythmer tout le morceau. Très vite, j'ai évidemment dans ma tête des images de machines qui tournent. Je ne sais pas encore, à ce moment-là, que ça va devenir les excavatrices du clip de Goliath, qui sont des machines titanesques que j'ai filmées en République tchèque. Mais je sais déjà, à ce moment-là, qu'il est dit d'une machine rotative.
Parce que pour resituer, le clip de Goliath, c'est un personnage qui travaille dans une mine et qui se retrouve face à des machines monstrueuses. À la fin, ce qu'on voit, c'est son impuissance et le fait qu'il soit sur le point d'être totalement bouffé par ces machines-là. Ça vous fascine, ça ? Ces machines monstrueuses-là ?
Oui. Il serait facile d'arriver sur ces sites-là, qui sont des sites qui ont un impact écologique phénoménal.
Donc là, on est en République tchèque, c'est ça ?
En République tchèque, des mines de charbon à ciel ouvert, donc. Il serait facile de simplement faire un pamphlet écologique. Mais il y a beaucoup d'implications dans ces mines de charbon. C'est aussi des entreprises qui font vivre des régions entières. C'est aussi là le paradoxe, c'est-à-dire comment on démonte un système quand on en fait partie. Ce qui m'intéresse, c'est justement qu'il y a beaucoup d'ambiguïté là-dedans. C'est qu'en fait, c'est autant du génie que de la folie.
Parce qu'il y a une beauté aussi là-dedans.
Et oui. Et ce qui est intéressant artistiquement, c'est toujours ce curseur. C'est à quel point est-ce que l'esthétisation du titanesque, du monstrueux, devient politique et à quel point elle ne le devient plus. Quand est-ce qu'on fait l'apologie et quand est-ce qu'on dénonce ? Et toujours de me poser cette question-là, de me dire, est-ce que c'est trop beau ? Est-ce que c'est trop laid ? Est-ce que c'est trop repoussant, donc les gens ne vont pas vouloir rentrer dedans ? Est-ce que c'est trop beau, donc les gens vont penser que j'en fais l'apologie ?
Et il y a un moment où le morceau, il prend des airs de bande originale de film catastrophe.
Oui, alors ça, ça vient de plusieurs choses.
On flippe là.
Ça, c'est quelque chose qui est très prominent dans l'album, c'est des jeux de rupture non naturels. C'est de couper intégralement le son.
Tac !
Net.
Comme
du
ça.
Silence absurde.
Et des voix, et des sons, et un ordi, c'est Pop & Co. dans le studio de Woodkid pour entrer dans les entrailles de Goliath, l'un des morceaux de S16, son nouvel album.
Là-dessus, il y a aussi un élément qui est assez prominent dans tout l'album, c'est cette basse. Ça, c'est du magma. C'est quelque chose qui boue.
Ça crépite, toi.
C'est un son imparfait aussi. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé sur l'album. C'était de passer à l'acide les sons. Comme s'il y avait une corrosion sur l'album qui emmenait l'album vers le bas. Comme s'il y avait une espèce d'effet de dissolution. Parvenir à faire tenir en équilibre des choses qui s'effondrent. Après, il y a plein de petits éléments narratifs qui viennent de l'orchestre.
Vous dites narratif, vous, parce que c'est comme une histoire que vous
que
racontez.
Oui, parce que pour moi, il raconte des voix, il raconte des choses. Par exemple, il y a des glissés, notamment avec les corps.
Ça, ça fait sirène d'alarme.
Voilà, c'est en ça que je dis que c'est narratif. J'ai du mal à utiliser les sons quand ils n'évoquent pas des images.
Et est-ce qu'on peut écouter votre voix seule ?
Alors. The chest and the head divided by a white laser. A pattern of mouth strobes, you're going haywire. En fait, il y a deux voix. Je chante The chest and the head divided by a white laser. Parce que c'est ma voix un peu parlée, mais je chante une octave en dessous aussi. The chest and the head divided by a white laser.
Et toutes ces voix-là, elles contrastent avec la monstruosité de l'orchestration. C'est-à-dire qu'il y a les grosses machines, et puis vous, bah vous êtes petit, quoi.
Il y a donc ces refrains un peu fous, qui sont des refrains où la machine déraille. Je voulais du bruit. Je voulais qu'avec l'orchestre, on crée une masse organique titanesque. Donc ça, c'est un mélange de plein de choses. Il y a peut-être une 30, 40, 50aine de pistes au total.
On va pas écouter les 50.
Non. Mais... Je rajoute les cuivres. Je rajoute plus d'orchestre encore. Encore plus d'orchestre. Et encore plus d'orchestre. Et notre hook. On retrouve les percussions. Souffle humain. Qu'il y a des apnées. Et là, on a le refrain. Voilà, une grosse tartinade.
S16, c'est le titre du nouvel album de Woodkid. La semaine prochaine, il est nommé aux Victoires de la musique dans la catégorie Création audiovisuelle. Pour le clip de Goliath. L'équipe de Pop & Co, c'est Coy Nguyen qui a réalisé cette émission avec Philippe Duclos ce matin. C'est Ilinka Negulesco qui trouve les sons et la documentation. Et c'est Jean-Baptiste Audibert qui participe largement à la programmation musicale. Merci à eux quatre. La semaine prochaine, je vous parle de Soul Music avec l'histoire du label Motown. Et nous entrerons dans le labo d'Izia. À samedi.